Chapitre 5. 2 mois s'étaient écoulés. On touchait à septembre et la fortune rapide que Duroy avait espérée lui semblait bien longue à venir. Il s'inquiétait surtout de la médiocrité morale de sa situation et ne voyait pas par quelle voie il escaladerait les hauteurs où l'on trouve la considération et l'argent. Il se sentait enfermé dans ce métier médiocre de reporter, muré là-dedans à n'en pouvoir sortir. On l'appréciait, mais on l'estimait selon son rang. Forestier même, à qui il rendait 1000 services, ne l'invitait plus à dîner, le traitait en tout comme un inférieur, bien qu'il le tutoyât comme un ami. De temps en temps, il est vrai, Duroy, saisissant une occasion, plaçait un bout d'article, et ayant acquis par ses échos une souplesse de plume et un tact qui lui manquait lorsqu'il avait écrit sa seconde chronique sur l'Algérie, il ne courait plus aucun risque de voir refuser ses actualités. Mais de là à faire des chroniques au gré de sa fantaisie ou à traiter, en juge, les questions politiques, il y avait autant de différence qu'à conduire dans les avenues du bois étant cocher ou à conduire étant maître. Ce qui l'humiliait surtout, c'était de sentir fermer les portes du monde, de n'avoir pas de relation à traiter en égal, de ne pas entrer dans l'intimité des femmes, bien que plusieurs actrices connues l'eussent parfois accueilli avec une familiarité intéressée. Il savait d'ailleurs, par expérience, qu'elles éprouvaient pour lui, toutes, mondaines ou cabotines, un entraînement singulier, une sympathie instantanée, et il ressentait, de ne point connaître celle dont pourrait dépendre son avenir, une impatience de cheval entravé. Bien souvent, il avait songé à faire une visite à Madame Forestier, mais la pensée de leur dernière rencontre l'arrêtait, l'humiliait, et il attendait, en outre, d'y être engagé par le mari. Alors le souvenir lui vint de Madame de Marelle et, se rappelant qu'elle l'avait prié de la venir voir, il se présenta chez elle un après-midi qu'il n'avait rien à faire. « J'y suis toujours jusqu'à 3 heures », avait-elle dit. Il sonnait à sa porte à 2h30. Elle habitait rue de Verneuil, au 4e. Au bruit du timbre, une bonne vint ouvrir. Une petite servante dépeignée qui nouait son bonnet en répondant « Oui, madame est là, mais je ne sais pas si elle est levée. » Et elle poussa la porte du salon qui n'était point fermée. Duroy entra. La pièce était assez grande, peu meublée et d'aspect négligé. Les fauteuils, défraîchis et vieux, s'alignaient le long des murs, selon l'ordre établi par la domestique, car on ne sentait en rien le soin élégant d'une femme qui aime le chez-soi. 4 pauvres tableaux, représentant une barque sur un fleuve, un navire sur la mer, un moulin dans une plaine et un bûcheron dans un bois, pendaient au milieu des 4 panneaux, au bout de cordons inégaux, et tous les 4 accrochés de travers. On devinait que depuis longtemps, il restait penché ainsi sous l'œil négligent d'une indifférente. Duroy s'assit et attendit. Il attendit longtemps. Puis une porte s'ouvrit et Madame de Marelle entra en courant, vêtue d'un peignoir japonais en soie rose où étaient brodés des paysages d'or, des fleurs bleues et des oiseaux blancs. Et elle s'écria « Figurez-vous que j'étais encore couchée. Que c'est gentil à vous de venir me voir. J'étais persuadée que vous m'aviez oublié. » Elle tendit ses 2 mains d'un geste ravi et Duroy, que l'aspect médiocre de l'appartement mettait à son aise, les ayant prises, en baisa une comme il avait vu faire à Norbert de Varennes. Elle le pria de s'asseoir. Puis, le regardant des pieds à la tête, « Comme vous avez changé. Vous avez gagné de l'air. Paris vous fait du bien. Allons, racontez-moi les nouvelles. » Et ils se mirent à bavarder tout de suite, comme s'ils eussent été d'anciennes connaissances, sentant naître entre eux une familiarité instantanée, sentant s'établir un de ces courants de confiance, d'intimité et d'affection qui font amis en 5 minutes 2 êtres de même caractère et de même race. Tout à coup, la jeune femme s'interrompit et, s'étonnant, « C'est drôle comme je suis avec vous. Il me semble que je vous connais depuis 10 ans. Nous deviendrons sans doute bons camarades. Voulez-vous ?» Il répondit « Mais certainement. » Avec un sourire qui en disait plus. Il la trouvait tout à fait tentante, dans son peignoir éclatant et doux. Moins fine que l'autre dans son peignoir blanc, moins chatte, moins délicate, mais plus excitante, plus poivrée. quand il sentait près de lui Madame Forestier, avec son sourire immobile et gracieux qui attirait et arrêtait en même temps, qui semblait dire « Vous me plaisez ». Et aussi « Prenez garde », dont on ne comprenait jamais le sens véritable, il éprouvait surtout le désir de se coucher à ses pieds, ou de baiser la fine dentelle de son corsage, et d'aspirer lentement l'air chaud et parfumé qui devait sortir de là, glissant entre les seins. Auprès de Madame de Marelle, il sentait en lui un désir plus brutal, plus précis, un désir qui frémissait dans ses mains, devant les contours soulevés de la soie légère. Elle parlait toujours, semant en chaque phrase cet esprit facile dont elle avait pris l'habitude, comme un ouvrier saisit le tour de main qu'il faut pour accomplir une besogne réputée difficile et dont s'étonnent les autres. Il l'écoutait, pensant « C'est bon à retenir tout ça. On écrirait des chroniques parisiennes charmantes en la faisant bavarder sur les événements du jour. » Mais on frappa doucement, tout doucement à la porte par laquelle elle était venue. Et elle cria « Tu peux entrer, mignonne ?» La petite fille parut, alla droit à du roi et lui tendit la main. La mère, étonnée, murmura « Mais c'est une conquête, je ne la reconnais plus !» Le jeune homme, ayant embrassé l'enfant, la fit asseoir à côté de lui et lui posa, avec un air sérieux, des questions gentilles sur ce qu'elle avait fait depuis qu'il ne s'était vu. Elle répondait de sa petite voix de flûte, avec son air grave de grande personne. La pendule sonna 3 heures. Le journaliste se leva. « Venez souvent, » demanda Madame de Marelle. « Nous bavarderons, comme aujourd'hui. Vous me ferez toujours plaisir. Mais pourquoi ne vous voit-on plus chez les forestiers ?» Il répondit « Oh, pour rien. J'ai eu beaucoup à faire. J'espère bien que nous nous y retrouverons un de ces jours. » Et il sortit, le cœur plein d'espoir, sans savoir pourquoi. Il ne parla pas à Forestier de cette visite. Mais il en garda le souvenir les jours suivants, plus que le souvenir, une sorte de sensation de la présence irréelle et persistante de cette femme. Il lui semblait avoir pris quelque chose d'elle. L'image de son corps restait dans ses yeux et la saveur de son être moral restait en son cœur. Il demeurait sous l'obsession de son image, comme il arrive quelquefois quand on a passé des heures charmantes auprès d'un être. On dirait qu'on subit une possession étrange, intime, confuse, troublante et exquise parce qu'elle est mystérieuse. Il fit une seconde visite au bout de quelques jours. La bonne l'introduisit dans le salon et Laurine parut aussitôt. Elle tendit non plus sa main, mais son front, et dit « Maman m'a chargé de vous prier de l'attendre. Elle en a pour un quart d'heure parce qu'elle n'est pas habillée. Je vous tiendrai compagnie. » Du roi, qu'amusaient les manières cérémonieuses de la fillette, répondit « Parfaitement, mademoiselle. Je serai enchanté de passer un quart d'heure avec vous. Mais je vous préviens que je ne suis point sérieux du tout, moi. Je joue toute la journée. Je vous propose donc de faire une partie de chat perché. » La gamine demeura saisie, puis elle sourit, comme aurait fait une femme, de cette idée qui la choquait un peu et l'étonnait aussi. Et elle murmura « Les appartements ne sont pas faits pour jouer. » Il reprit « Ça m'est égal. Moi, je joue partout. Allons, attrapez-moi. » Et il se mit à tourner autour de la table, en l'excitant à le poursuivre, tandis qu'elle s'en venait derrière lui, souriant toujours avec une sorte de condescendance polie et étendant parfois la main pour le toucher, mais sans s'abandonner jusqu'à courir. Il s'arrêtait, se baissait et, lorsqu'elle approchait, de son petit pas hésitant, il sautait en l'air comme les diables enfermés en des boîtes, puis il s'élançait d'une enjambée à l'autre bout du salon. Elle trouvait ça drôle, finissait par rire et, s'animant, commençait à trottiner derrière lui, avec de légers cris joyeux et craintifs, quand elle avait cru le saisir. Il déplaçait les chaises, en faisait des obstacles, la forçait à pivoter pendant une minute autour de la même, puis, quittant celle-là, en saisissait une autre. Laurine courait maintenant, S'abandonnait tout à fait au plaisir de ce jeu nouveau et, la figure rose, elle se précipitait d'un grand élan d'enfant ravi. À chacune des fuites, à chacune des ruses, à chacune des feintes de son compagnon. Brusquement, comme elle s'imaginait l'atteindre, il la saisit dans ses bras et, l'élevant jusqu'au plafond, il cria « Chat-perché !» La fillette enchantée agitait ses jambes pour s'échapper et riait de tout son cœur. Madame de Marelle entra et, stupéfaite, « Ah ! Ah ! Laurine ! Laurine qui joue ! Vous êtes un ensorceleur, monsieur. » Il reposa par terre la gamine, baisa la main de la mère et ils s'assirent, l'enfant entre eux. Ils voulurent causer, mais Laurine, grisée, si muette d'ordinaire, parlait tout le temps et il fallut l'envoyer à sa chambre. Elle obéit sans répondre, mais avec des larmes dans les yeux. Dès qu'ils furent seuls, Madame de Marelle baissa la voix. « Vous ne savez pas ? J'ai un grand projet. Et j'ai pensé à vous. Voilà. Comme je dîne toutes les semaines chez les forestiers, je leur rends ça de temps en temps dans un restaurant. Moi, je n'aime pas avoir du monde chez moi. Je ne suis pas organisée pour ça. Et d'ailleurs, je n'entends rien aux choses de la maison. Rien à la cuisine, rien à rien. J'aime vivre à la diable. Donc je les reçois de temps en temps au restaurant. Mais ça n'est pas gai quand nous ne sommes que nous trois. Et mes connaissances à moi ne vont guère avec eux. Je vous dis ça pour vous expliquer une invitation peu régulière. Vous comprenez, n'est-ce pas, que je vous demande d'être des nôtres samedi, au Café Riche, 7h30. Vous connaissez la maison ? Il accepta avec bonheur. Elle reprit, nous serons tous les quatre seulement, une vraie partie carrée. C'est très amusant ces petites fêtes-là, pour nous autres femmes qui n'y sommes pas habituées. Elle portait une robe marron foncé qui moulait sa taille, ses hanches, sa gorge, ses bras d'une façon provocante et coquette. Et Duroy éprouvait un étonnement confus, presque une gêne dont il ne saisissait pas bien la cause. Du désaccord de cette élégance soignée et raffinée avec l'insouci visible pour le logis qu'elle habitait. Tout ce qui vêtait son corps, tout ce qui touchait intimement et directement sa chair était délicat et fin. Mais ce qui l'entourait ne lui importait plus. Il la quitta, gardant, comme l'autre fois, la sensation de sa présence continuée dans une sorte d'hallucination de ses sens. Et il attendit le jour du dîner avec une impatience grandissante. Ayant loué pour la seconde fois un habit noir, ses moyens ne lui permettant point encore d'acheter un costume de soirée, il arriva le premier au rendez-vous. Quelques minutes avant l'heure. On le fit monter au second étage et on l'introduisit dans un petit salon de restaurant, tendu de rouge et ouvrant sur le boulevard son unique fenêtre. Une table carrée de 4 couverts étalait sa nappe blanche, si luisante qu'elle semblait vernie. Et les verres, l'argenterie, le réchaud brillaient gaiement sous la flamme de 12 bougies portées par 2 hauts candélabres. Au dehors, on apercevait une grande tache d'un vert clair que faisaient les feuilles d'un arbre, éclairée par la lumière vive des cabinets particuliers. Duroy s'assit sur un canapé très bas, rouge comme les tentures des murs, et dont les ressorts fatigués, s'enfonçant sous lui, lui donnèrent la sensation de tomber dans un trou. Il entendait dans toute cette vaste maison une rumeur confuse. Ce bruissement des grands restaurants fait du bruit des vaisselles et des argenteries heurtées, du bruit des pas rapides des garçons adoucis par le tapis des corridors, du bruit des portes un moment ouvertes et qui laissent échapper le son des voix de tous ces étroits salons où sont enfermés des gens qui dînent. Forestier entra et lui serra la main avec une familiarité cordiale qu'il ne lui témoignait jamais dans les bureaux de la vie française. « Ces deux dames vont arriver ensemble, » dit-il. C'est très gentil, ces dîners-là. Puis il regarda la table, fit éteindre tout à fait un bec de gaz qui brûlait en veilleuse, ferma un battant de la fenêtre à cause du courant d'air et choisit sa place bien à l'abri, en déclarant « Il faut que je fasse grande attention. J'ai été mieux pendant 1 mois et me voici repris depuis 4 jours. J'aurais attrapé froid mardi en sortant du théâtre. » On ouvrit la porte, et les deux jeunes femmes parurent, suivies d'un maître d'hôtel, voilée, cachée, discrète, avec cette allure de mystère charmant qu'elles prennent en ces endroits où les voisinages et les rencontres sont suspects. Comme du roi saluait Madame Forestier, elle le gronda fort de n'être pas revenue la voir. Puis elle ajouta, avec un sourire vers son amie, « C'est ça. Vous me préférez Madame de Marelle. Vous trouvez bien le temps pour elle. » Puis on s'assit, et le maître d'hôtel, ayant présenté à Forestier la carte des vins, Madame Marelle s'écria, « Donnez à ces messieurs ce qu'ils voudront. Quant à nous, du champagne frappé, du meilleur, du champagne doux, par exemple, rien d'autre chose. » Et l'homme étant sorti, elle annonça avec un rire excité, « Je veux me pocharder ce soir, nous allons faire une noce, une vraie noce !» Forestier, qui paraissait n'avoir pas entendu, demanda « Cela ne vous ferait-il rien qu'on ferme la fenêtre ? J'ai la poitrine un peu prise depuis quelques jours. » « Non, rien du tout. » Il alla donc pousser le battant resté entrouvert, et il revint s'asseoir avec un visage rasséréné, tranquillisé. Sa femme ne disait rien, paraissait absorbée et... les yeux baissés vers la table, elle souriait au verre, de ce sourire vague qui semblait promettre toujours pour ne jamais tenir.